Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, oui, la grosse voix l'a dit. En direct du Mans, une émission exceptionnelle ce matin autour du Grand Prix de France MotoGP, le 1000e Grand Prix de l'histoire. Un Grand Prix de France qui fête également ses 30 ans. Bref, une fête magnifique, un immense rendez-vous qui nous attend cet après-midi à partir de 14h avec la MotoGP. Et toute l'équipe d'RMC est installée chez Pramac Racing, l'écurie de Johan Zarco. Au programme, au sommaire des grandes gueules du sport dans quelques instants, la une des GG, une victoire française aujourd'hui. Nous avons évidemment deux chances, Johan Zarco donc et Fabio Quartararo. Est-ce juste un rêve? Je vous poserai la question, n'hésitez pas à réagir au 32-16. À 10h, la seconde des GG autour de notre champion français Fabio Quartararo, qui n'y arrive pas avec sa moto. Doit-il quitter Yamaha? Question cash, réponse cash. Eric De Seine, patron de Yamaha Europe, sera notre invité. Et puis 11h, nous aurons l'honneur d'accueillir dans le studio RMC, ici au Mans, la légende de la moto, le roi Ago, Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde, le plus grand pilote de tous les temps, sans oublier évidemment le reste de l'actualité, Teddy Riner et son 11e titre de champion du monde, ou encore Benoît Paire, on en parlait dans l'émission hier, qui met la Fédération française de tennis dans l'embarras. Alors ça, c'est des motos. Évidemment, nous sommes en direct du Mans avec les grandes gueules du sport ce matin. Christophe Cessieux, Renaud Longuèvre, Marie Martineau et Simon Dutin. Salut les grandes gueules.
Hello.
Salut JT.
Bonjour. Salut.
Alors, sachez, chers auditeurs, vous l'entendez certainement derrière nous, il y a déjà, oui, il est tôt ce matin, mais il y a déjà des motos qui font des tours, des motos qui s'échauffent. Il y aura la Moto 3, la Moto 2, la Moto GP à partir de 14h. Pour les nouveaux là qui découvrent le Grand Prix, le circuit Ducati, Renaud Longuèvre, ta première impression?
C'est impressionnant, c'est réellement impressionnant. 250 000 personnes sur un week-end, je ne me rendais pas compte, très sincèrement, avant de venir ici. Ça me...
Qu'est-ce que tu dis?
Non, mais ça me fait un petit peu l'ambiance des JO, quelque part. Cette masse de passionnés là qui viennent, ce grand barnum, ça me rappelle évidemment dans une autre dimension.
Le meeting de Montreuil?
Non. Non, sincèrement, c'est énorme. C'est énorme.
Ouais, c'est assez incroyable. Alors sachez que nous sommes sur une terrasse. C'est pour ça que vous entendez à ce point les motos qui passent juste à côté de nous. Simon Dutin, c'est ta première également ici, ton impression?
Ah, c'est impressionnant, c'est monumental. Effectivement, les gens déjà amassés, on est arrivé, les gens sont là, même dans des endroits où ils vont pas forcément très bien voir la course, et ça se bat, tu sens qu'il y a de la passion quand même, des mecs qui connaissent la moto, peut-être même un petit peu mieux que moi, hein, on va se mentir. Mais tous les logos, tu sais, de toutes les marques depuis l'enfance et tout, c'est ma tête de Proust, on peut les citer, je sais pas ce qu'on fait. Mais bon, les drapeaux, l'ambiance, la course et puis le boucan que ça fait, c'est absolument impressionnant.
Bon, toi Marie, c'est pas ta première, tu es une habituée, mais est-ce que tu arrives encore à regarder ça avec tes yeux d'enfant?
Non mais moi je suis comme une dingue déjà depuis hier et avant-hier, parce que je savais qu'on venait et que ça m'excite évidemment. En plus, nous personnellement, on a quand même une chance incroyable de se retrouver là. On est dans le paddock, dans l'hospitalité. J'ai serré la pince à Johan Zarco il y a pas plus tard qu'il y a 20 minutes. Enfin, c'est une dinguerie complète. Je sais que je fais beaucoup d'envieux. Alors à tous ceux-là, en tout cas, je veux leur dire que j'en profite à fond, au moins pour eux. Et c'est la seule chose qu'on puisse faire. Mais je me sens très chanceuse, vraiment.
Privilégiée. Et on va tenter évidemment de vous retranscrire tout ça, cette émotion ici sur ce Grand Prix de France. Oui. Christophe Cessieux, c'est ton combienième? 50e Grand Prix de France, non déjà?
Bah non, j'en ai pas fait beaucoup. Mais bon, quand on se retrouve ici, on est quand même au cœur de l'histoire du sport automobile et des sports mécaniques en France. Le circuit des 24 heures, c'est un mythe. Je veux dire, c'est l'histoire des 24 heures, c'est la plus grande course automobile du monde, et ce circuit a rassemblé des Grands Prix de France moto, des Grands Prix de France de Formule 1, les 24 heures du Mans. On est au cœur de l'histoire des sports mécaniques ici, donc franchement il règne une atmosphère incroyable.
Tu connais bien.
Et en plus il y a la fête foraine juste derrière, ton camping juste à côté. On est sorti de la tente quand même ce matin, on a bien dormi dans la tente, on était magnifique
tous les deux en plus, franchement. Ah, c'est très agréable de dormir avec toi, je tenais à te le dire.
Bah ouais, tu ronfles un peu mais bon.
Tu parlais des invités et de l'histoire, chargé d'histoire ici, Jackie X. Monsieur Le Mans sera également notre invité dans cette émission. Beaucoup d'invités. Et donc restez bien avec nous, c'est parti pour les grandes gueules du sport.
RMC,
La une des grandes gueules du sport.
Et on va tout de suite retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, c'est Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous.
Hello.
Alors c'est une fête exceptionnelle à laquelle nous allons assister aujourd'hui.
Oui, déjà avec l'affluence, vous en parliez, beaucoup de public, un peu plus de 110 000 personnes attendues rien que ce dimanche. On va peut-être battre le record établi l'an passé parce qu'il y a un petit peu plus de tribunes éphémères mises en place. Le public y répond présent puisque il y a du monde dans les tribunes depuis très très tôt ce matin. Dès 8h, certaines étaient déjà pleines. On a pu le constater pour ce que vous entendez derrière nous, c'est le MotoGP Rookies Cup qui est en cours. La première course, première étape pour les pilotes. Ensuite, on aura le warm-up pour les pilotes MotoGP. Ça commence à 9h45, donc dans une grosse demi-heure, l'échauffement. Ils auront ensuite 10 minutes donc de warm-up et la parade des pilotes qui est un moment très très attendu. C'est nouveau cette année avec ces pilotes, Juan Zarco, Fabio Quartararo, à partir de 10h, qui vont défiler tout autour du circuit ici au Mans. 11h, course Moto 3, midi 15, la course Moto 2 et donc à 14h, le départ de la course MotoGP. L'organisation qui promet aussi quelques surprises, des invités, dont Giacomo Agostini, qu'on aura la chance d'avoir ici. On l'a croisé hier d'ailleurs, sur un scooter dans le paddock, tranquillement, Giacomo Agostini, le pilote le plus titré de l'histoire. Il y a une exposition qui marche très bien dans le village pour les fans en son honneur. Il sera mis donc à l'honneur tout autour de cette course, sous le soleil en plus. Pour le moment, on a de la chance, et pour le plus grand plaisir du promoteur Claude Michi, qui compte bien conserver son titre, parce que lui aussi a un titre, le titre de meilleur Grand Prix de l'année. Il l'a remporté l'an dernier.
Merci beaucoup Valentin Jamin, on te retrouvera tout au long de cette émission pour les informations, toi qui vas traîner près des paddocks. Juan Zarco, que nous avons croisé tout à l'heure, nous allons tenter de le faire venir, hein. Forcément c'est une journée chargée pour lui, il y a un Grand Prix à disputer, donc il est déjà focus, déjà concentré, mais on va tenter de le faire venir au micro d'RMC. Alors ça c'est pour le décorum, pour la fête aujourd'hui. Notre commentateur MotoGP cet après-midi, vous le connaissez parfaitement sur RMC, c'est Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut JC, salut à tous.
Salut Paul.
Le volet sportif avec toi, nous allons parler d'une possible hypothétique victoire française. Paul, il faudrait un exploit?
Ouais, ça sera vraiment très très compliqué. On va rappeler la qualification d'hier, hein, avec le champion du monde en titre, l'Italien Bagnaia, qui a bien signé sa 13e pole position en MotoGP devant Marc Marquez et Luca Marini pour retrouver les Français. Il faut regarder un petit peu plus loin. Juan Zarco, 9e seulement de ses qualifications, et Fabio Quartararo, 13e, qui n'a même pas passé, JC, la Q1, la première séance de qualification. Et lorsque l'on s'est entretenu hier après la course sprint avec les deux Français, eh bien les objectifs sont évidemment différents. Pour Zarco, un bon résultat, ce serait un top 5. Il partira 9e et avec une vraie Ducati, il a une chance évidemment d'aller dans le top 5, et pourquoi pas de monter sur la boîte. Pour Fabio Quartararo, c'est assez navrant, mais au vu de ses performances, un top 10 serait un bon résultat. Ce sont les mots des deux pilotes français.
Un top 5, un top 10, mais on va tenter d'aller plus loin avec vous, les GG.
Évidemment, on n'est pas d'accord.
Du reste, avec nous, la musique qui fout les jetons, même si nous sommes en direct du Mans, elle arrive en direct de Paris, cette musique qui fout les jetons.
Oh.
Et cette question, on l'emmène toujours avec nous dans nos bagages. Une victoire française pour le 1000e Grand Prix de l'histoire, est-ce juste un rêve? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Oui, c'est un rêve, mais il faut bien rêver dans la vie.
Ok, hein, très bien.
C'est important.
Philosophe en plus, Christophe Cessieux, ce matin, c'est parfait. Renaud Longuèvre?
Non.
Marie Martineau?
Alors oui, j'en rêve, mais je pense que c'est entièrement possible aujourd'hui.
Ok, et Simon Dutin?
Ah, c'est mon rêve, mais mes rêves se réalisent rarement, donc.
Ok, expérience de vie, philosophie, on va se régaler autour de ce débat.
Il rêve de faire 10 kilos, par exemple, mais ça, c'est vraiment du rêve. Ça.
Merci, Christophe.
Excusez-moi, bouffé hier soir, en fait.
Christophe, c'est juste un rêve. Tu crois vraiment à une victoire française aujourd'hui au Mans?
Je me dis qu'ici, je veux dire, le rêve. Dans cet endroit, c'est le plus bel endroit pour le matérialiser. Quand tu vois Juan Zarco qui est là, qui rêve d'une première victoire. Il n'a jamais remporté une épreuve de MotoGP. Il a été champion dans les catégories inférieures.
Il a déjà fait deuxième.
Il a déjà fait deuxième. Mais là, sa moto notamment est au top. On rappelle qu'hier, sur la course sprint, c'est son équipier qui a la même moto que lui qui a remporté la course. Donc, on se dit que le rêve peut se transformer en réalité du jour au lendemain. Après, c'est vrai qu'il a une grosse pression ici, on en parlait hier. Il n'a pas une seule seconde à lui. Quand tu fais un Grand Prix à la maison, tu es très sollicité par les médias, par les sponsors, par les partenaires. Donc il a la tête un peu prise par tout ça. Je pense que sa première victoire en Grand Prix, ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais ce sera dans un endroit un peu plus anonyme. Là, si tu veux, il est dans les feux de l'actualité, donc ce sera compliqué pour lui. Mais s'il y a un seul rêve à avoir aujourd'hui, c'est celui de voir Zarco vainqueur, parce que je ne pense pas que Quartararo ait la moto pour gagner la course. Il n'a pas, en plus, on sent qu'il a le moral au fond des chaussettes. Donc, je mise sur Johan. J'espère que le rêve va se matérialiser, mais je pense que c'est encore du domaine du rêve pour l'instant.
Ok, encore du domaine du rêve. Toi, tu y crois, Marie ?
Oui, moi j'y crois particulièrement pour plein de raisons. Alors la première, c'est que hier il part 9, il remonte quand même 6 avec des perspectives même de remonter 5-4. Il fait une petite erreur de pilotage sur le dernier tour, mais sans ça, il pouvait encore faire des choses. Dixit de lui, hein, j'ai rien inventé. Voilà, il a une moto très performante. Aujourd'hui, il repart 9 avec beaucoup plus de tours. On sait que ce circuit, il l'adore, il l'affectionne particulièrement. On l'a déjà vu sur le podium ici. Et moi, je crois aux belles histoires, je crois aux destinées incroyables et je crois que c'est ça qui serait juste incroyable. Donc, j'y crois. Le fait de le voir gagner son premier Grand Prix ici, devant son public, avec autant d'amour autour de lui, pour l'avoir croisé ce matin, je crois qu'il est, il a pas l'air déboussolé par ce qui lui arrive, le garçon. Il sait très bien où il est, pourquoi il est là. Et au contraire, j'ai trouvé ça assez sain de le voir se balader là, serrer des pinces, dire bonjour. Il avait l'air dans son assiette, tu vois. Ouais.
Mais il faut quand même le rappeler, ce serait une performance inouïe. Et vous l'avez aussi dit, lui qui n'a jamais gagné un Grand Prix de MotoGP, le gagner pour le millième Grand Prix de l'histoire, franchement, l'histoire serait absolument sublime. Hein.
Mais il en a gagné plein des Grands Prix dans d'autres catégories, tu vois.
Bien sûr. Renaud Longuet.
Moi, je crois, si vous voulez, à l'effet à domicile. Dans tous les sports. Ouais. Dans tous les sports, je pense que tu peux pas, ce Grand Prix de France, tu peux pas le traiter comme n'importe quel Grand Prix pour les deux Français, pour Johan Zarco, pour Fabio Quartararo. Et c'est, on l'a dit, et c'est dans la bouche de tout le monde, c'est des grands champions. On est sur des pilotes qui touchent l'exception. Enfin, Quartararo, c'est le plus jeune poleman de toute l'histoire. C'est des gens qui sont habitués à faire des choses inimaginables, à faire des choses incroyables. Alors, ok, j'entends la statistique, 9e, 13e, ce serait de l'inimaginable, de trucs. Mais s'il y a un endroit pour le faire, c'est ici. C'est ici, c'est avec cette ambiance, c'est avec ses fans, parce que je crois que ça va les galvaniser, ça va les pousser à faire des choses que personne... Parce que c'est ça le sport. Le sport, si c'est juste des statistiques, tu vois, voilà. La course, elle est faite à l'avance.
L'effet est positif de disputer un Grand Prix ou disputer une compétition à la maison?
Ouais,
c'est pas quelque chose énorme. Qui peut au contraire te bloquer
non.
un peu
non,
parce
ça,
que t'es très
ça,
attendu
oui.
t'es...
ça sur des gens comme nous oui mais sur des gens d'exception ça fait l'inverse.
Je veux dire que je suis pas un mec
le
d'exception,
sport de haut niveau c'est ça.
Oui, c'est ça que c'est ça tu regardes dans les bras dans les yeux pour me dire ça
non toi au baby-foot quand il y a des gens qui se mettent autour tu commences à déjouer tu vois.
Au contraire ça me sublime.
Par contre non sincèrement je pense que quand même des champions de cette trempe là un Zarco qui a jamais gagné un Grand Prix s'il y a un jour pour le faire c'est aujourd'hui. Ok, il part 9, mais un Quartararo c'est pareil. Faire un truc impossible que personne ne. Bah c'est ça le sport. C'est écrire l'histoire, c'est écrire des choses qui n'ont jamais été faites. Donc dans ce cadre-là, avec un contexte comme celui-là, je pense que ça joue en leur faveur et ça rend les choses possibles.
Il y a quelque chose de très important à comprendre, et Simon Dutin, je vais te donner la main dans une seconde. On est en direct du Grand Prix du Mans. Souvent on est critique avec les sportifs parce qu'on se dit 9e, 11e, 12e, on attend plus. Mais il faut voir, il faut le vivre une fois en direct pour comprendre à quel point ces bonhommes sont de véritables champions. C'est-à-dire que on tient même pas nous 2 secondes sur cette moto. C'est absolument incroyable à voir à plus de 300 km/h. C'est un moment inouï à voir. Et je pense que tout le monde devrait un jour avoir la chance de pouvoir admirer ces champions parce qu'ils ne sont pas faits comme les autres. Et c'est vrai que même si on peut être critique avec Fabio Quartararo parce qu'on a été habitué à du caviar avec lui où il a été champion du monde.
Non, on n'est pas critique à son égard. On est critique à l'égard de son écurie et de sa moto. Si tu lui files une Ducati, tu vas voir s'il va pas gagner des grands prix.
Oui, mais souvent, même, par exemple, même en Formule 1, on se dit Pierre Gasly, ouais. Mais pourquoi il est pas sur le podium plus souvent?
Non, mais la densité.
Esteban Ocon, pourquoi il se rentre dedans avec les Alpines? On cherche à chaque fois des dualités, des rivalités. Mais il faut se dire que ces sportifs sont de grands, grands champions avant tout. Ils font partie de l'élite.
Sur le plan physique, c'est sur les départs, c'est de l'explosivité, c'est des hautes fréquences, qu'on appelle des hautes cadences, des hautes fréquences. Il faut de l'endurance aussi, donc il faut du cardio. Il faut du musculaire, parce que la bécane, il faut la maîtriser. Il faut la palette complète.
Ouais, il faut du mental, il faut énormément de courage pour faire ce qu'ils font. Simon Dutin, le rêve, tu y crois ou pas aujourd'hui, une victoire française?
J'ai envie d'y croire, évidemment, j'ai envie de rêver, mais je vais rétorquer à Renaud qu'effectivement, tu peux te sublimer à domicile, tu peux aussi être écrasé par le poids de l'attente. Évidemment, Zarco et Cartararo, ils ont envie de briller particulièrement ici. On va quand même rappeler que les Ferrari n'arrivent pas à gagner à Monza. Depuis, enfin, c'est compliqué aussi quand tu es attendu par le public. En sport mécanique, c'est comme en sport co, tu as aussi le poids de l'attente derrière toi. On va quand même rappeler que ça fait 65 ans qu'aucun pilote français n'a remporté le Grand Prix moto. À l'époque, ça comptait même pas pour le championnat du monde. Ça fait donc 64 ans que chaque dimanche, Christophe Cessieux nous dit « Je rêve qu'un pilote français gagne aujourd'hui, cet après-midi. » Zarco, évidemment, on a envie d'y croire. Moi, ce qui me fait plaisir, quelque part, c'est que je trouve qu'on est un petit peu injuste médiatiquement avec la place qu'on octroie à Zarco. Effectivement, Quartararo, c'est le phénomène. Il est jeune et tout. Et je trouve que c'est un peu injuste pour un Zarco qui...
Mais il est champion du monde.
Là-dessus,
Mais même Fabio. Avant ça, même l'année où il gagne, je suis désolé, je trouve qu'il y a un peu d'injustice. Alors effectivement, il peut, je pense, viser un top 5, mais on va rappeler, il y a quand même 5 Ducati qui partent devant lui, il y a quand même 5 mecs qui ont la même machine. Vous parliez de la densité du plateau.
Oui, c'est tellement difficile de
gagner.
Densité.
Alors effectivement, son copain a gagné avec la même machine hier au sprint. Moi, je pense que top 5, ce serait déjà formidable. Et top 10, on est obligé de se dire qu'un top 10 pour Carta, ce serait quasiment comme un podium.
L'année dernière, à notre humble niveau, on avait réparé cette espèce d'injustice que je comprends, dont tu parles, entre ces deux pilotes. On avait Jean-Michel Baille sur ce plateau qui nous expliquait pendant 5 minutes à quel point Johann Zarco était d'une dimension extraordinaire, qu'il avait un toucher de bitume extraordinaire.
Pour les insiders, Marie, pour les mecs qui connaissent, mais tu vois, pour le grand public, je suis désolé, je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur.
Nous, on est mainstream.
On est coupable. Aussi, hein. On a notre responsabilité là-dedans parce qu'il est peut-être un peu moins flashy, il parle un petit peu moins à la jeune génération, on l'entend un petit peu moins.
Ah, mais les galons, comme l'a dit JC, champion du monde, c'est champion du monde, Simon.
Oui, mais Johan a deux titres de champion du monde en moto 2, hein. c'est quasiment les mêmes machines.
L'élite reste l'élite. Paul Lapierre, tu veux prendre la main.
Meilleur rookie quand même, Johann Zarco, lorsqu'il gagne ses deux titres de champion du monde en moto 2 en 2015-2016. Il passe dans le team Tech 3 d'Hervé Poncharal et il finit 5e meilleur pilote rookie, ce qui veut dire que le talent il l'a, la moto il l'a aujourd'hui. On a pu voir sur des courses sprint cette année que Brad Binder, qui est aujourd'hui le sud-africain de chez KTM, qui est aujourd'hui 2e du classement général du championnat du monde, est parti 2 fois 10e de la grille, a gagné des courses sprint, a terminé 2e également d'une course MotoGP, ce qui veut dire que Johann Zarco, s'il prend un bon départ aujourd'hui avec
les
conditions, c'est possible, il le dit humblement, un top 5, je vous le dis, il sera sur la boîte ce soir du Grand Prix de France.
Qu'est-ce que tu paries alors
ta trottinette électrique.
Ok, un podium pour Johann Zarco, évidemment, on le souhaite, et on parlera aussi de Fabio Quartararo à partir de 10h avec Eric De Seyn, le patron de Yamaha Europe. Il va nous dire comment va son poulain. On sait que pour lui c'est compliqué, qu'il a chuté hier lors de la course sprint, et Johann Zarco, nous allons tenter de la voir au micro d'RMC. On va revenir dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Il est 9h26, restez bien avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour vous faire vivre à fond ce Grand Prix de France de MotoGP. Nous allons parler aussi du reste de l'actualité, et évidemment l'actualité, eh bien, c'est Teddy Riner et son 11e titre de champion du monde. Teddy Riner arrive-t-il encore à vous bluffer? C'est notre débat dans une poignée de secondes avec Morgan Mori en direct de Doha. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
9h30 en direct du Mans, toujours avec les grandes gueules du sport. Renaud Longuèvre, Marie Martineau, Christophe Cessieux, Simon Dutin. Le Grand Prix de MotoGP, c'est aujourd'hui à 14h. Un Grand Prix que vous allez suivre en direct en intégralité sur RMC. Le 1000e Grand Prix de l'histoire. Nous sommes chez Pramac, l'écurie de Johann Zarco. On va vous faire vivre cette matinée absolument exceptionnelle en direct du Mans. Sachez que dans une dizaine de minutes, nos invités vont se succéder. Il y aura Jackie X, une légende de l'automobile, son surnom Monsieur Le Mans, forcément c'est très important de l'avoir dans cette émission. Dans le studio RMC, il y aura également la légende de la moto, légende italienne, Giacomo Agostini, et puis Eric De Seyn, le patron de Yamaha, patron de Fabio Quartararo, sera également avec nous. On va ouvrir une parenthèse sur le reste de l'actualité avec tout de suite Teddy Riner, forcément, qui a fait le show hier lors des championnats du monde.
Teddy Riner qui saute deux fois sur ses pieds. C'est parti pour cette finale des plus de 100 kilos. La finale des poids lourds. Teddy Riner qui chasse un 11e titre mondial face au droitier Tassoev. L'objectif, c'est de faire plier la garde de ce russe. Teddy Riner qui est accroché au bras de Tassoev. Attention, Tassoev veut passer dans le dos. Et Riner qui tombe à plat ventre. Jusqu'à combien de temps va-t-il résister à la pression? Et là, oui, une attaque en première intention de Riner. C'était bien fait, c'était nouveau. À peine a-t-il posé les mains qu'il a attaqué, il a tourné le dos. Mentalement, tactiquement, c'est fort. Riner, il ne lâche pas un pouce à son adversaire. 5 minutes 30. Si le russe prend la pénalité, c'est terminé. Riner qui jette sa jambe. C'est bien fait, mais Tassoev qui essaye de le contrer. Oh là 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 là. Les encouragements de la famille de Teddy Riner. Il y a son père Moïse qui tape dans les mains. Loutna, sa compagne, elle par contre, est de marbre. Elle ne bouge pas. Elle doit être extrêmement stressée. Teddy Riner qui est contré. Teddy Riner qui est contré. Est-ce que Teddy Riner est battu? L'arbitre n'a rien dit. Tassoev qui est passé dans le dos. Tassoev qui est passé dans le dos. Est-ce que Riner va être battu? Est-ce qu'on va donner une marque? Il va y avoir vidéo. À mon avis, Riner est battu. Pour la 10e fois du match, celle-là, c'est du sursis. Ça, c'est un gros sursis pour Teddy Riner. Heureusement que le match avait été arrêté. Tassoev, nouveau balayage, nouveau coup de patte. Voilà, là, sur des coups de judo, Tassoev, il surprend Teddy Riner. Riner ouais. Qui gère Tassoev dans son semi-gâché. Wazari, la 11e, le numéro 11. Teddy Riner, champion du monde pour la 11e fois. L'empereur est de retour. Il est là. Teddy Riner, le clan français exulte avec sa technique fétiche. Sumigaishi, le sourire aux lèvres. Alors celle-là, c'est peut-être la plus belle de sa carrière. Le tableau le plus compliqué. Il s'est sorti de la jungle des plus de 100 kilos. Riner, champion du monde, au bout de ses forces.
6 ans après son dernier titre mondial, Teddy Riner a donc décroché hier son 11e titre de champion du monde pour son grand retour à 439 jours des Jeux Olympiques. Morgan Maury, notre envoyé spécial à Doha, est avec nous. Vous l'avez entendu. Salut Morgan.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Hello.
Alors, pour lui, c'est pas forcément une consécration, c'est juste un point d'étape hein, pour le champion français Teddy Riner.
Oui, puisqu'il disait qu'il était à 60-70% avant les Jeux Olympiques, mais on va pas cracher sur un titre mondial, le 11e, surtout quand on sait d'où vient Teddy Riner. Voici ce qu'il disait avant de s'embarquer pour Doha.
J'appelle ça des belles journées. C'est un magnifique jour pour mourir. Voilà.
Riner savait que son classement était promesse d'une journée en enfer. 6 combats, 3 prolongations, pratiquement une demi-heure passée sur le tatami, une journée d'Hercule. Le russe Tassoev, son sixième travail est jeté après 8 minutes d'une finale étouffante, crispante, victorieux et fourbu. Riner s'étend les bras en croix sur le tatami. Le paradis était au bout de ce chemin.
Ce Wazari à la fin, il fait plaisir parce que journée finie, journée achevée, ce rallye est terminé, cette journée plus qu'horrible est finie. Du coup, je repars avec un nouveau titre de champion du monde, le 11e. Il fait très plaisir.
À 34 ans, pour son 12e championnat du monde, Riner a probablement réalisé la plus grande performance de sa carrière. Le poids des ans, un pied blessé juste avant de grimper dans l'avion. Un tableau dantesque face à une génération qui veut le pousser dehors à 70% de ses moyens, limité dans son judo. 3 avantages marqués seulement dans la journée. Le Guadeloupéen a opposé un physique d'acier, surtout un mental en titane, Stéphane Nomis, le président de la Fédération Française de Judo.
Quand tu vois la journée qui s'est tapée, il avait un tirage au sort de dingue. Il a fait une journée de dingue, c'est juste incroyable de survivre à ça. Il a été plus loin qu'il pouvait. Il a puisé dans toute son énergie, dans toutes ses forces, dans tout ce qu'il a appris ces 20 dernières années pour être performant aujourd'hui. Il n'a rien lâché à chacun des moments. Il a toujours été là, toujours mis le petit coup de plus en plus. Vraiment, c'est le plus grand des champions qu'on ait aujourd'hui, quoi.
Voilà, avec sa massue, Riner a frappé un grand coup sur la tête de ses adversaires. C'est peut-être encore plus important que ce 11e titre mondial. Il a 1 an pour retrouver du judo, surtout de la vitesse, descendre encore un petit peu au poids. À peine sorti du tatami, et Riner récupérait hier son judogi déjà brodé avec la 11e étoile. Le corps cassé, il prenait le temps de jouer avec sa fille Isis. Hercule a bien mérité des vacances avant son prochain travail, Paris 2024.
Merci beaucoup Morgan Maury d'avoir été avec nous et on suivra aussi la journée par équipe avec toi en direct de Doha sur RMC. Notre question les GG à propos de Teddy Riner, arrive-t-il encore à vous bluffer? Oui ou non, Marie Martineau?
Non, pas sur ce coup-là.
Christophe Cessieux?
Ah oui, là je suis bluffé, franchement.
Renaud Longuèvre? Le micro.
Oui.
Oui, franc et massif. Simon Dutin.
Il m'a régalé, mais bluffé, non.
Non, j'ai deux oui, j'ai deux non. Marie, pourquoi oui?
Pourquoi non? Il ne m'a pas bluffé parce que j'aurais quand même le culot de dire qu'il m'a bluffé alors que j'ai passé la journée d'hier à vous dire que je savais qu'il allait gagner. Tu vois. Donc voilà, j'ai presque envie de vous dire je le savais. Non, alors il m'a pas bluffé parce que je crois qu'il est au rendez-vous de ses ambitions. Tout était fait pour que ça se passe comme ça. Alors et bien sûr que il y a toujours les aléas de la compète, tout ça, mais pour en avoir beaucoup discuté avec Cyril Marais hier avant-hier, le plan s'est déroulé comme c'était prévu qu'il se déroule. Partant de là, ça ne me bluffe pas. Enfin, ça ne m'a pas. Maintenant, je ne minimise pas la performance, le retour incroyable. Tout ce qui fait qu'il a fallu mettre en place pour en arriver jusqu'ici et être une 11e fois champion du monde, c'est-à-dire 16 ans après la première fois qu'il l'est. Donc voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas
dit. Tu banalises l'exploit. Pour toi, il suffit qu'il monte sur un tatami pour gagner. Quoi.
Ça ne m'a pas bluffé. Oui, parce qu'il a un kumikata de fou. Parce qu'il a un kumikata de fou, parce qu'il est puissant, parce qu'il est plus agile, parce qu'il a minci. Pour tout un tas de raisons qui viennent s'additionner au fait qu'il est quand même dominant depuis des années sur cette discipline-là.
Marie, il a 34 ans. Je veux dire, l'âge. Toi, est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui dans un pipe ce que tu faisais il y a 10 ans?
Alors, mon cher Christophe, moi, j'étais vice-championne olympique à 33 ans et demi, bien tassé, et j'étais au top de ma forme, je pense. Aujourd'hui, j'en ai 39. Hein. Donc oui, non, aujourd'hui ce serait compliqué, mais à 34 t'es bien. Je pense qu'il est
34,
bien. À 34 t'es bien. C'est un bon âge.
Moi je suis bien. T'arrives
en charge. T'as 75 ans, Christophe.
Non, moi j'arrive. Non, c'est pas parce que tu pèses 95 kilos, mon petit Simon.
Que... Un peu plus que ça, Christophe.
Très bien, Tiki-Tac, ça va être très sympa ce matin avec vous en direct du Mans. Christophe, est-ce que tu arrives à être bluffé? Toi, tu réponds oui.
Moi, oui.
Hier, on se posait la question de savoir si on pouvait
mais moi,
douter.
Moi, j'avais des doutes hier. J'avais des doutes, non pas de la qualité de l'athlète qui est Teddy Riner, non pas de son mental, mais de cette jeune génération qui arrive et qui est très talentueuse. Je ne sais pas si vous avez vu le cube japonais qu'il a pris en quart de finale. 21 ans, le mec qui pèse 165 kilos. C'est pour le déplacer, c'est un truc de dingue. Il a toute une génération. Que des gauchers, alors qu'il déteste affronter les gauchers, il a dû tous les prendre les uns après les autres. D'habitude, quand t'es tête de série, tu évites un ou deux adversaires de top niveau. Tu en rencontres quelques-uns, mais pas tout au long de la journée. Là, il s'est pris les meilleurs tout au long de la journée. Pour moi, c'est le plus beau parcours qu'il ait jamais réalisé dans un championnat du monde. Pour moi, c'est son plus bel exploit depuis le début de sa carrière. Il y a eu les titres olympiques. Évidemment, les titres olympiques, c'est plus honorifique qu'un titre de champion du monde. Mais franchement, celui-là, il est allé chercher. Je sais pas si vous avez vu sa déclaration après la compétition. Il disait, c'est un cauchemar. J'ai vécu une journée d'enfer, quoi. Donc moi, il me bluffe. Franchement, aujourd'hui, il me bluffe. Pendant des années, je trouvais que c'était le plus grand, mais là, hier, franchement, je me mets à genoux, je dis bravo champion. T'es un immense.
J'ai pas découvert,
mais à 34 ans, je pensais pas qu'il était capable de faire une journée comme ça, du début à la fin, avec des prolongations jusqu'au bout. Genre, en finale, on était dans le train avec Renault, on regardait le combat. À un moment donné, on a bien cru qu'il était battu. Et puis non, l'arbitre finalement accorde pas le point à son adversaire. Et derrière, il va gagner. Oui, je suis bluffé. Et c'est sans doute la première fois qu'il bluffe.
C'est Christophe Cessieux qui me bluffe ce matin. Il me bluffe. Christophe Cessieux me bluffe véritablement. Continue, Christophe. Tu fais une belle émission. Fais-la cette émission. Vis-la comme tu fais là. C'est bien.
On dirait Jean-Claude Perrin quand tu parles comme
bien.
Ça.
C'est bien, mon Christophe. Sincèrement, sur Teddy, moi, je vais vous dire pourquoi je pense que Marie et Simon se trompent ce matin. C'est que hier, la finale, c'est peut-être le combat le plus dur de toute sa carrière et toute son immense carrière, parce que il doit sa victoire à un changement de règlement et que qui a eu lieu il y a quelques semaines et l'excellent Eric Despezel sur la chaîne L'Équipe l'a dit tout de suite, dit attention, quand tu lâches tes appuis tu peux pas te jeter et accompagner la chute. Et effectivement, c'est ça qui sauve Teddy Riner. Il y a quelques mois il perd ce combat. Et là, sur ce contre, en fait. Et derrière, la force qu'il a, c'est que il change de technique, il change de stratégie. Et au bout d'une prolongation, où là, il avait très mal dormi. Donc, il va chercher du physique, mais il va chercher de la tête. Il va chercher de la tronche avec sa main gauche qui met à la ceinture dans le dos. Et cette traction du bras gauche, sur des lourds. On est chez les lourds.
Mais bien sûr.
Donc,
il faut une poêle. Je le savais.
Mais je crois que là où
vous l'avez sous-estimé, en fait. Donc là, vous faites les mecs bluffer.
Non. Parce que toi, tu dis.
Vous avez pas conscience du potentiel de ce mec-là.
Non, Marie, arrête. Parce que quand tu dis Moi, je savais qu'il allait gagner. Lui-même le savait pas.
Et demain, si Zarco gagne, il a dit mais je vous l'avais dit.
Viens en aide à Marie Martino, Simon Dutin.
Oui, moi je vais pas faire comme Renaud et Christophe, essayer de faire croire que je connais vraiment assez le judo pour vous dire que les mecs étaient trop forts en face ou quoi, ou que le règlement avantage machin. Moi, je suis sur l'émotion parce que je l'ai dit, il nous a mal habitués, le mec. Je suis désolé, quoi. Voilà. Moi, je fais partie de ces gens qui, lorsqu'ils montent sur un tatami, voient Teddy Riner gagner, voit Teddy Riner dominateur. On avait Clarisse Agmenenou qui nous avait montré la voie déjà dans la semaine parce qu'elle revenait de sa maternité. Elle disait moi, ces immenses champions, quand ils arrivent avec beaucoup d'humilité, souvent je me dis c'est pas bon signe pour ceux qui vont affronter, parce qu'on parle d'un carnassier, d'un des plus grands champions de l'histoire du sport français. Et effectivement, quand un Teddy Riner te dit oh, moi vous savez, je suis pas sûr, on va voir, je suis déjà content d'être là,
je suis à 60%,
ouais, je suis à 60%. Il nous avait dit son entraîneur, t'es là, bon, il y a cet échec au jeu 2021, il y a le fait qu'il n'était pas tête de série, Christophe l'a rappelé, tu te dis le mec il est vexé, il n'a pas l'habitude, il a envie de les déboîter tous, donc effectivement je pense que même si il y a des gabarits, tu l'as dit Christophe, exceptionnels en face, il y a quelque chose qu'on souligne pas, parce que effectivement c'est un monstre physique Teddy Riner, c'est que selon moi je pense qu'au niveau mental c'est aussi le meilleur de très loin, et effectivement
quand un mec comme ça doit se reposer sur le mental aussi, au mental
justement aussi. Et le fait de, quand tu te dis bon bah si ça se joue au mental, bah pour moi c'est le meilleur. Et puis on rappelle que il est en mission effectivement à un peu plus d'un an des Jeux de Paris, donc voilà, effectivement il aurait perdu, je me serais rangé à l'avis des immenses spécialistes en disant bah voilà, c'est compliqué le judo, ça se gagne, il suffit pas de décider pour gagner. Mais j'ai pas été surpris qu'il gagne, il m'a pas bluffé, voilà.
Bravo en tout cas à Teddy Riner, que l'on retrouvera ce soir dans l'émission Bartoli Time avec Marion Bartoli, avec Morgan Mori, qui va donc retrouver Teddy Riner durant de longues minutes et qui va nous offrir un magnifique entretien. Morgan Mori, juste un mot, peut-être si tu veux ajouter quelque chose sur Teddy Riner, mais aussi sur cette compétition aujourd'hui, ces championnats du monde qui se poursuivent avec la compétition par équipe, mais sans Teddy Riner.
Oui, Teddy Riner qui est en vacances, il ne combattra pas aujourd'hui. Les Bleus vont débuter face à la Lituanie, une équipe qui est remodelée. Priscilla Nieto, Margot Pino, Roman Dico qui a été battu hier au premier tour, Orlando Cazorla, Maxime Gaël, Gaïap Gambou et Joseph Drake pour former cette équipe française face à la Lituanie. Je reviens juste rapidement sur le point de règlement. Renaud l'a bien expliqué. Riner a vu la vidéo en sortant du tatami. Il est allé parler avec le Russe et le Russe a dit oui, je savais que le mouvement que j'ai fait ne méritait pas une valeur.
Parfait. Merci beaucoup, Morgane Mori, pour toutes ces précisions. Et on te retrouvera tout au long de la journée pour nous faire vivre, comme d'habitude, à merveille, ces championnats du monde de judo. On se retrouve dans quelques instants pour les grandes gueules du sport en direct du Mans pour le Grand Prix MotoGP. Nous allons reparler de la moto. Nous sommes chez Pramac, l'écurie de Johann Zarco. Et justement, nous allons accueillir son président dans une poignée de secondes. Jackie X, la légende du Mans, sera également avec nous. Restez bien avec nous. Il est 9h44 sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 en direct sur RMC, en direct du Mans, vous l'avez bien compris, pour le Grand Prix MotoGP, le 1000e Grand Prix de l'histoire. 30 ans de ce Grand Prix du Mans, le circuit Ducati. Nous sommes là en direct jusqu'à midi. Et évidemment, vous allez suivre la course à partir de 14h, toujours avec les GG, Christophe Cessieux, Renaud Longuèvre, Simon Dutin, Marie Martino. Nous sommes chez Pramac qui nous accueille. Nous allons en parler, l'écurie de Johann Zarco. Et nous sommes dans le studio RMC avec le président de la filiale Pramac Racing, c'est Pascal Verrière. Bonjour Pascal.
Bonjour, salut à tous.
Directeur général du groupe Pramac, merci de nous accueillir chez vous.
Avec plaisir.
Nous sommes privilégiés avec un coureur français, un pilote français, Johann Zarco. Avant de parler de cette filiale Pramac Racing, déjà vous, votre sensation d'être ici, vous l'avez vécu de nombreuses fois, Le Mans. Johann Zarco, il peut gagner aujourd'hui, j'imagine qu'on en parlait en début d'émission, vous en rêvez.
On en rêve, il en rêve, on a tous envie pour lui qu'il gagne, c'est une consécration. Il ne faut pas oublier d'où il vient, il a été champion du monde deux fois en montée 2. Il fait des résultats très réguliers en MotoGP depuis plusieurs saisons, y compris chez nous. Donc on est très heureux de l'avoir et on attend tous qu'enfin il monte sur la plus haute marche du podium, évidemment.
Ouais, Pramac Racing, ça fait déjà des années que vous êtes au contact du MotoGP. Comment s'est fait l'histoire et comment a évolué cette écurie?
Alors c'est une histoire d'hommes, de rencontres. On vient d'un milieu purement industriel. Notre métier, nous, c'est de fabriquer des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, il faut un moteur, il faut un alternateur. Les moteurs, c'est souvent des moteurs Honda pour certains produits. Donc nous sommes rentrés dans ce monde il y a 21 ans maintenant, grâce à nos relations avec Honda. Et puis l'histoire fait que Pramac, groupe italien, Ducati, groupe italien, et bien depuis maintenant 16-17 ans, nous sommes avec Ducati, partenaire. Et on a vécu cette croissance, la montée en puissance de l'ensemble du matériel chez Ducati. Et on les accompagne. Et depuis plusieurs saisons, on a le matériel d'usine. On est considéré comme un type pratiquement usine, matériel d'usine, des équipes techniques usines. Ben, ça nous permet d'être au sommet. Et voilà.
On appelle ça une écurie satellite. Satellite de Ducati. Donc vous avez quasiment la même moto que les Ducati officielles.
C'est pas quasiment. On a des motos officielles.
Des motos officielles.
Mais vous êtes à la fois client et finalement concurrent Ducati. Ou alors, quand une moto Pramac gagne un Grand Prix pour Ducati, c'est une réussite? Ou alors c'est finalement un concurrent qui gagne? Comment ça se fait la différence?
Dans la vie, rien n'est simple, rien n'est binaire, c'est jamais zéro ou un. Donc c'est toujours un partenariat, il y a toujours des zones entre le blanc et le noir, c'est toujours du gris. On est partenaire de Ducati, mais le vrai sens partenaire, c'est-à-dire que les équipes Ducati, c'est eux qui nous les mettent à disposition, ils nous mettent à disposition le matériel. La MotoGP, c'est un sport individuel. Même au sein du box Ducati, même au sein du box Pramac, les deux pilotes sont concurrents. C'est pas parce qu'ils appartiennent tous les deux à Pramac Racing ou à Ducati ou à Honda qu'ils font partie.
Oui, mais pour la marque Ducati, pour le groupe Ducati.
Si aujourd'hui Ducati nous met les mêmes motos qu'ils ont eux chez eux, c'est tout simplement parce qu'ils y trouvent un intérêt pour faire progresser plus et plus vite. Si Ducati a été champion du monde l'an dernier, c'est parce qu'ils ont plusieurs motos officielles, plus des motos satellites comme les nôtres, qui sont toutes au top niveau. Ce sont toutes les mêmes. Donc plus ils ont de motos usine de l'année, plus ils ont de chances d'être champions du monde.
Ouais. C'est-à-dire que s'ils trouvent des réglages au fur et à mesure de la saison, ils trouvent des réglages intéressants, ils vous les communiquent.
Non seulement ils nous les communiquent, mais parfois c'est nous qui les apportons les réglages. Cool. On a deux pilotes qui ont des profils totalement différents. On a Holger qui a gagné hier après-midi.
La course au sprint, ouais.
Voilà. Et qui est un jeune pilote en développement, qui a un potentiel, qui a l'ambition de passer dans une écurie usine, très clairement affichée. Et puis on a Johan.
Pourquoi ils veulent passer dans les écuries usines? Donc c'est qu'il y a quand même un petit prestige, d'accord.
Et puis on a Johan qui lui au contraire est un pilote hyper expérimenté qui fait progresser beaucoup plus que d'autres parce qu'il a un vécu, il a un ressenti et il a cette capacité à transmettre tous ses ressentis. Une capacité qui est sans doute plus développée que certains jeunes pilotes qui sont encore en phase de développement eux-mêmes. Et on est là pour ça. Banea, champion du monde l'an dernier, on l'a eu chez nous pendant plusieurs saisons. Il a été justement en phase d'éducation et c'était vraiment le sens de la relation. Ouais,
en fait, vous formez les pilotes, ensuite vous les balancez à l'usine, c'est un peu ça.
C'est l'antichance.
C'est effectivement la théorie. Ouais. Mais dans toute théorie, il y a des exceptions. L'exception, c'est Johan. C'est pas un jeune pilote qu'on forme pour qu'il parte chez Ducati. Non, c'est un pilote au contraire hyper expérimenté qui apporte son complément d'information.
Est-ce que Ducati finalement a un rôle dans le choix des pilotes que vous faites?
Mais évidemment. Ouais, évidemment. C'est un choix qu'on partage. On soumet des listes et après on fait un choix. Alors le choix, il est évidemment premièrement sportif. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour faire en sorte que Ducati soit champion du monde, que le pilote soit champion du monde? Et puis il y a aussi les choix économiques derrière. Faut jamais l'oublier.
Pascal Verrière est avec nous, le président de la filiale Pramac Racing, l'écurie, le team de Johan Zarco. Simon Dutin pour Pascal.
Pascal, certaines personnes dans le grand public pensent que ce sont les écuries d'usine qui créent leurs écuries satellites. Ce qu'on ne sait pas, c'est que vous pourriez à l'avenir peut-être être partenaire d'une autre écurie d'usine que Ducati. Racontez-nous le processus de séduction, comment on se renifle avec une écurie d'usine, comment on en arrive à devenir le partenaire de Ducati, pourquoi Ducati et pas un autre et pourquoi Ducati fait confiance à Pramac.
Alors, c'est une start-up. Faut pas se tromper, lorsqu'on a fait le choix de basculer de Honda à Ducati, c'est parce que d'abord ils avaient besoin, ils revenaient en MotoGP, ils avaient besoin d'avoir plusieurs motos sur la grille pour développer leur moto. Nous on avait un intérêt qui était de la vision long terme. Qui sommes-nous? Nous sommes des industriels, on fabrique des groupes électrogènes. On a fait le choix de faire porter toute la communication de notre groupe à travers cette société qui est une filiale du groupe. Nous ne sommes pas sponsors. Moi, tous les mois, je fais 28 fiches de paye pour Pramac Racing, en plus des 1700 salariés du groupe Pramac. Donc on a une vision de long terme. quel est le constructeur de moto qui peut nous apporter une relation long terme, relation contractuelle, relation humaine, relation technique. Ducati est celui-ci aujourd'hui. Évidemment, régulièrement, on a d'autres constructeurs qui viennent frapper à notre porte en nous disant, et pourquoi pas, il y a un autre Italien avec qui on aurait pu basculer. Pourquoi basculer à partir du moment où on a une moto qui est performante? Si c'est changer pour changer, c'est pas le but. Les hommes ont besoin de se connaître, de travailler en confiance. Les équipes techniques Ducati qui sont chez nous, la plupart des techniciens, des ingénieurs, sont chez nous depuis des années. On les connaît, ils nous connaissent. Quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison de changer. Et quand en plus, on a la meilleure moto du plateau, pourquoi aller prendre le risque d'aller faire autre chose? Nous, le but du jeu, c'est évidemment de gagner, c'est évidemment d'être hyper performant en termes de résultats, pour avoir une communication positive. Et c'est vraiment le but, quoi. C'est une communication positive, c'est du résultat. La meilleure expérience, c'est hier après-midi, lorsque Jorge est sur la plus haute marche du podium, lorsque Johan n'est pas trop loin, et c'est positif, quoi. Hein ?
Alors, ça vous a pas échappé, en Formule 1, chez Alpine, on a réuni les deux pilotes français. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, Pascal, réunir les deux pilotes français, c'est possible ou pas ?
Alors, Pramac, c'est un groupe italien, donc on ne l'oublie pas. Moi, je suis français, effectivement, bon, même si mon passeport est encore français, mais je suis un citoyen du monde. Mais ça reste évidemment notre rêve. Mais il y a tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte. Je sais combien je dois payer à la fin de la saison pour faire en sorte que cette boutique, elle tourne bien. On a aussi des sponsors. Et les sponsors ont, entre guillemets, quelquefois leur mot à dire pour dire ben, il faut aller chercher tel ou tel pilote. Faut pas se tromper, ça reste de la communication.
Bien sûr, mais Fabio Quartararo, ce serait un bon coup. Enfin, je veux dire, ou pas.
Ça serait sans doute l'un des meilleurs.
Ah,
on est d'accord.
Il a besoin d'aide en ce moment, sa moto marche pas, parce qu'elle pourrait pas faire un truc pour lui quand même, Fabio, non?
Je sais pas dire qu'il a un vélo, mais. On a eu des vélos, nous aussi, pendant des années, on était tout loin, et on sait ce que c'est. Donc, on essaie de se mettre un petit peu dans sa tête, effectivement. Ça serait un rêve.
Ouais,
ça serait un rêve. Est-ce qu'il y a un jour, il deviendra réalité?
Surtout qu'il a des origines italiennes, un peu quand même, quand on s'appelle Quartararo pour une.
Exactement.
Pour une marque italienne.
Que l'on est niçois, juste à côté de la frontière. Ouais,
enfin, on n'est pas quand même. Attention,
les niçois. Oui, excuse-moi, toi tu es niçois, mais on va dire que c'est un petit peu pareil.
Fabio est un petit peu italien, espagnol aussi, parce qu'il a été formé là-bas. Mais Etienne est aussi très italien, donc c'est un tout.
Bon, en tout cas, on souhaite une magnifique saison à Pramac. Et merci Pascal Verrière d'avoir été avec nous en direct sur RMC, de nous avoir parlé de votre écurie, de nous avoir parlé de Johann Zarco et peut-être un jour un rêve, un graal absolu avec Fabio Quartararo et Johann Zarco dans la même écurie. En tout cas, nous, on en rêve. Les médias, merci d'avoir été avec
merci
nous. Merci de votre accueil ici en direct du Mans. On revient dans quelques instants. Justement, Fabio Quartararo, on en parle, Pascal, avec cette question. Je ne sais pas si vous allez l'apprécier. Oh si, je pense. Doit-il quitter Yamaha? Voilà, c'est notre question avec Fabio Quartararo qui a du mal en ce moment avec sa moto. Et il le dit et il se plaint
de son
écurie. Exactement. À tout de suite sur RMC avec le patron de Yamaha Europe. À tout de suite.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules du sport en direct du Mans.